j'ai laissé mes notes à la maison, donc il faut que je vous prêche sans notes. Voilà, je les ai oubliées. Voilà, on va prier pour que le Seigneur puisse nous instruire ce matin à travers sa parole. Notre Père, nous te louons parce que tu es celui qui nous instruit directement par ton esprit, mais aussi par ta parole que tu nous as laissée, et toi-même, quand tu es sur terre, tu l'as citée et tu l'as utilisée en disant « Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera point. » Alors Seigneur, sur ta parole, nous voulons vraiment reconnaître que cette parole est inspirée et utile pour toute œuvre bonne, afin qu'elle nous fasse parvenir, Seigneur, à la perfection, à la maturité en Christ, Seigneur. Nous voulons grandir chaque instant, chaque semaine, chaque mois, chaque année, Seigneur, pour que nous puissions plus te ressembler. Et en cela, Seigneur, nous sommes reconnaissants de ce que tu agis dans nos vies, dans nos cœurs, pour que ton nom soit glorifié de plus en plus. Seigneur, reçois notre reconnaissance. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Heureusement que j'ai quand même le PowerPoint, en espérant que ça marche. Oui, ça marche, c'est bien. Voilà, donc j'ai quand même les planches. En fait, je voudrais terminer aujourd'hui une série que j'ai commencée. Je n'avais pas prévu de le commencer, mais voilà, il faut être obéissant au Seigneur. Et je pense le terminer aujourd'hui. D'ailleurs, il y a des groupes de maison qui attendent après ça. Donc, ça sera de la matière à creuser dans les groupes de maison, parce que c'est quelque chose qui est assez dense. C'est la question du tétramorphe, hein, le fameux tétramorphe. Donc, l'être vivant que tous les prophètes ont vu dans le ciel, pour ceux qui ont eu la chance d'avoir cette révélation céleste, hein, ce qui se passe dans le ciel. C'est extraordinaire d'avoir le modèle céleste. Et moi qui suis dans l'industrie, enfin qui étais dans l'industrie de très haute technologie, on utilise des modèles, comme dans toute industrie, hein, l'automobile aussi, des modèles pour créer des choses, hein, des modèles qui viennent de la création. Voilà. Et grâce à ces modèles, on peut faire des choses qui marchent. Hein. Mais il y a des modèles qui ne sont pas plus importants que ceux qu'on utilise pour fabriquer des objets. C'est des modèles de notre vie. C'est plus important que de notre voiture, de notre maison, de notre chauffage, de tout cela. Bon, c'est bien, mais c'est important de savoir comment on nous vit, à quoi doivent-elles ressembler. Hein, il me semble que c'est plus important. Et là, moi, j'étais préoccupé par un modèle. Quel est le modèle, hein? Alors, il y a les psychologues qui ont des modèles, les psychanalystes qui ont des modèles. Tout le monde a des modèles de comportement humain, c'est vrai. Mais moi, je préfère avoir celui de Dieu, celui que Dieu nous révèle. Et ça, c'était ma préoccupation depuis toujours. Et le Seigneur m'a permis d'avoir cette grâce, d'avoir cette révélation. Alors, avant moi, il y a eu bien d'autres qui ont eu la révélation. Hein. Irénée de Lyon a eu cette révélation en tant que père de l'Église. Irénée était un des premiers évêques qui a pratiquement reçu de la main à la main l'évangile de Jean. C'est passé par Polycarpe, mais voilà, donc c'est le deuxième qui a pratiquement reçu l'évangile, c'est incroyable. Eh bien, il a reçu cette révélation de ce tétramorphe, de cet être vivant dans le ciel, qui s'incarne dans les quatre évangiles, les quatre évangélistes. C'est pour cela, dans toutes les églises catholiques, vous voyez ce tétramorphe apparaître dans les voûtes, enfin dans toutes les illuminures de la représentation de ce qui se passe dans le ciel. Vous savez que le problème, c'est que quand on vit dans un instant donné, on a l'impression que tout a été comme ça avant. Et c'est une erreur. L'école chrétienne, elle date de quand? De Jules Ferry. C'est de quel siècle? Pardon? Non, l'école publique. Public, hein. Enfin, que tout le monde est obligé d'aller à l'école. Voilà, c'est l'école obligatoire. Pardon? C'est Jules Ferry, non? Bon. Donc, c'est fin du 19e. Voilà. Mais avant, l'école n'était pas obligatoire. Hein. D'ailleurs, ça embêtait les parents de les envoyer à l'école, parce que la France était rurale à l'époque. Hein. Aujourd'hui, les paysans, voilà, il n'y a plus tant que ça. Mais à l'époque, presque 90% de la population était paysanne. hein, comme dans tous les pays un petit peu dans ce sens-là. Et les parents voulaient garder les enfants parce que c'était de la manœuvre hein, gratuite. Ils n'avaient pas besoin de faire venir les immigrés, c'était les enfants qui travaillaient dans les champs, etc. Et c'était très très dur. Donc l'école, c'était vraiment un manque de ressources qui était gênant pour les parents. Voilà. Donc l'école obligatoire est assez récente, ce qui fait qu'avant, les gens ne pouvaient pas lire. Alors comment est-ce qu'on leur transmettait le message de l'Évangile ? Ben, on le peignait. Et les églises étaient peintes, les vitraux étaient remplis d'images, non pas qu'on adorait les icônes, ça c'est encore un autre débat, je ne parle pas de ça, mais c'est toutes les histoires bibliques, que ce soit l'Ancien ou le Nouveau Testament, étaient inscrites dans les vitraux, dans les images, etc. Voilà. Parce qu'il n'y avait pas de langage, il y avait juste du patois, etc. Donc vous voyez, c'est la communication passée par là. Et c'est pour ça que les symboles, les images sont des signes. Hein, voilà, quand on voit une image, on voit les noces de Cana, par exemple, bah, vous pouvez, avec les détails de l'image, eh bien, relire, en fait, si le peintre a bien fait son travail, il essaie de retransmettre un petit peu le récit. Voilà. Donc une image est globale. C'est-à-dire que ça vous permet de saisir dans un ensemble, dans une seule image, tout un récit, quelque chose qui vient de la Bible, qui peut être contenu dans une phrase, une page, un livre, etc. Voilà. C'est pour ça que les images sont fortes et les symboles sont encore plus forts. Parce qu'un symbole, il représente dans l'ensemble de son symbolisme, de cette image qui représente tout un ensemble de choses derrière. Et je prends un exemple, la colombe de la paix. Tout le monde sait dans le monde entier, quand on représente la colombe, que c'est un signe de paix, hein, c'est pas un signe de guerre. Hein. Voilà. Et donc, voilà, c'est une façon de communiquer au-delà du langage langagier, qui est une barrière. Un russe, s'il parle un chinois, on ne comprend pas. S'il dessine une colombe, s'il veut vous dire « je veux la paix avec toi », il dessine une colombe, vous voyez tout de suite, voilà, qu'il ne veut pas la guerre, il veut la paix. Et c'est très fort. C'est un langage universel. Et donc là, nous sommes dans ce langage universel dans la Bible où Dieu parle aux hommes de manière à ce que tout le monde comprenne. Tous ceux qui voient ça, ils comprennent. Et c'est le cas du tétramorphe, des chérubins, etc., qui sont décrits dans la parole de Dieu. Donc le premier, en dehors de la Genèse, que je ne veux pas reprendre, mais dans Ézéchiel, vous avez donc cette vision, hein, où carrément l'Esprit de Dieu prend Ézéchiel pour le transporter, hein, c'est un transport spirituel là, qui se passe, hein, une translation spirituelle, de là où il est, donc en déportation à Babylone, jusqu'à Jérusalem. Et là, il voit les cieux ouverts et il est transporté dans le ciel. Et il voit cet être, hein, il voit le cinquième mois de la cinquantième année, la déportation, etc. Donc c'est très très précis, il peut dater cet événement de ce transport céleste. Il dit « Je regardais et voici qu'il vint du nord une tempête, etc. » Et là il se trouvait donc cet être au centre paraissait quatre animaux dont l'aspect avait une apparence humaine, chacun d'eux avait quatre faces, et chacun d'eux avait quatre ailes, etc. etc. Donc vous pouvez lire ce texte, il est assez long, de cette description de ce tétramorphe. On le retrouve dans l'Apocalypse, alors là c'est pareil, Jean, qui était sur l'île de Patmos, il rentre dans cette vision céleste, il rentre dans le ciel, et il voit les choses, et toute l'Apocalypse est très symbolique. Donc le symbole, ce n'est pas quelque chose de satanique, hein, c'est quelque chose que Dieu utilise pour globaliser un message, pour passer un message, une réalité, qui représente une réalité. Et donc, voilà, ce symbolisme du tétramorphe, mon souci, c'est de l'appliquer à notre propre vie, donc à la propre vie individuelle et à notre vie d'église. Et donc c'est ça le sujet de ce que je voudrais terminer aujourd'hui comme message. en espérant que je retrouve la manière de faire fonctionner. Les nouveaux iPads, ils ont tellement de trucs tactiles. Ça ne marche plus comme le vieux. Alors, ça n'avance plus. À la maison, j'aime s'exercer, mais je pense que les jeunes, ils ont plus de facilité. Ah, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais ça marche. C'est ça le problème. C'est... Voilà. Alors, le tétramorphe, c'est quelque chose qui est basé...
Disons,
un des symboles du tétramorphe, c'est le fait qu'il y a quatre animaux et dans quatre directions différentes. Hein. Donc, si Dieu a montré ça, c'est qu'il y a une raison à cela. Et donc, à chaque fois, le chiffre 4 est très très présent. Ça va ? C'est bizarre, tout va bien. Donc, le chiffre 4, voyez, est présent dans le tétramorphe. Et quand vous prenez la croix, hein, la rencontre des deux, ça fait déjà 4 directions, 4 zones, etc. Vous avez le carré, etc. Donc, le chiffre 4 est le chiffre qui est utilisé dans la Bible pour traduire le monde, hein, ou la terre, hein, tout ce qui est terrestre. Alors, il y a une femme donc, qui était l'origine de Foursquare, sœur Aimée, qui elle aussi a eu des visions, des révélations sur ce fameux tétramorphe. Et alors elle dit,
alors, je vais remettre là-dessus, elle dit dans ce petit livre, elle a enseigné donc sur ce message de, alors en anglais ça s'appelle Foursquare, mais le square, et les Français aussi. Square, vous savez, c'est à Paris, vous avez des petits squares. Donc, c'est repassé par l'anglais, mais c'est français, c'est le square. Et il y a 4 squares, quoi. 4. Voilà. C'est une petite place carrée. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'apparaissait ce fameux tétramorphe. Et donc voilà ce qu'elle dit sur le chiffre 4. Lorsqu'on commençait la première fois à utiliser l'expression évangile Foursquare, donc sœur Aimée en a parlé, le mot lui-même est utilisé 10 fois dans les Écritures. Les 3 premières fois, il est utilisé par Dieu lui-même. Les 3 fois suivantes, il est utilisé en référence aux hommes qui obéissent à la direction de Dieu. 3 fois, le mot est utilisé par rapport au temple de Salomon et dans le tabernacle, le centre de l'adoration et des sacrifices d'Israël. La dernière apparition de ce mot, donc dans le livre d'Apocalypse, où il se rapporte à la Nouvelle Jérusalem. Donc la Nouvelle Jérusalem, c'est nous, hein, qui descendrons de la serre, et nous aurons cette forme quadrangulaire, hein, parce que c'est le chiffre de l'homme, contrairement à 3, qui est le chiffre de Dieu. Donc là, il y a un certain nombre de passages hein, sur ce Foursquare, sur ce carré qui apparaît. Donc en Exode 27, Exode 28, Exode 30, je pourrais vous donner les références, Exode 37, Exode 38, Exode 39. Voilà, donc vous pourrez creuser ça dans les groupes de maison si vous le souhaitez. Jusqu'ici, les 3 premières fois que le mot 4 carrés donc, apparaît dans la Bible, c'est Dieu qui l'a utilisé. Les 3 fois suivantes, il s'agit de la manière dont les hommes obéissent aux directives de Dieu en faisant des autels et le pectoral, donc du souverain sacrificateur qui était en forme de carré. Dans l'Ancien Testament, l'autel de bronze symbolisait le dernier autel érigé par Christ par son action à la croix, où il a offert un seul sacrifice pour tous les péchés. L'autel d'or des parfums et le pectoral du souverain sacrificateur se rapportent à l'intercession, le moyen par lequel l'homme s'approche de Dieu. Ensuite, après, il parle du livre d'Ézéchiel, dont j'ai touché un mot, et ensuite du livre de l'Apocalypse. Donc, vous voyez, ce modèle de 4 et de 4 fois 4 se trouve au sein même du symbole que Dieu veut nous communiquer. Alors, elle résume cela en disant 4 est le chiffre du monde. donc c'est ce que je viens de dire. Notre message est pour le monde. Si nous avons un message, elle est vraie, un message de l'Évangile, c'est pour le monde. C'est pas pour les anges, c'est pas pour Dieu, c'est pour le monde. Au quatrième jour, selon Genèse 1, Dieu achevait la création matérielle. Et vous savez que le monde, il est représenté par quatre éléments, la terre, l'air, le feu, l'eau. Le monde, il a quatre points cardinaux, le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le monde a quatre royaumes, le royaume minéral, végétal, animal et spirituel. Le monde a quatre saisons, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver. On pourrait citer de nombreux autres éléments du monde qui se présentent sous forme de quatre. Jésus a parlé de quatre types de cœurs dans lesquels la parole de Dieu, la semence, pourrait tomber. La bordure d'un chemin, les endroits pierreux, les endroits couverts d'épines et la bonne terre, dans Matthieu 13. Et vous savez que le cœur de l'homme est bien divisé en quatre parties, hein, les pensées, les émotions, la volonté, la conscience. Dans le dictionnaire, si vous regardez à quatre évangiles, même le dictionnaire reconnaît qu'il a une caractéristique essentielle de quatre éléments. C'est les quatre évangiles. Il définit un carré comme étant quelque chose qui a quatre côtés, et dans la vie de tous les jours, quelque chose de carré, c'est quelque chose qui est stable, qui ne bouge pas. Donc ça nous renvoie au fait que c'est quelque chose de solide. Dieu, s'il nous révèle cela dans le ciel, c'est pour l'appliquer sur la terre et que ça sera solide, c'est équilibré. C'est solide, c'est universel, tout le monde le comprend, et ça représente la plénitude. Alors, je voudrais vous mettre cela dans la perspective, comment est-ce qu'on va l'utiliser. Et donc, je vous rappelle ce message qui est apporté par ce tétramorphe. Alors, dans la Bible, donc, vous voyez apparaître les différentes colonnes, je vais vous montrer ce qu'il y a dans la Bible et ce qu'ont révélé les pères de l'Église et ce qu'a reçu donc Sœur Aimée en Foursquare. Dans 1 Pierre 2:9, on va le prendre ensemble, c'est fondamental. Dans 1 Pierre 2:9, Pierre nous fait cette révélation de quatre formes d'identité qui est la nôtre. L'identité est quadruple, notre identité est quadruple. Donc dans 1 Pierre 2:9, il dit, par contre, vous êtes, alors quand on dit vous êtes, ça se rapporte à l'identité. Vous êtes français, vous êtes chinois, vous êtes, c'est l'identité. Donc vous êtes, donc qu'est-ce que nous sommes? Et vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple racheté. Voyez-vous, pour exprimer qui nous sommes, il faut quatre choses qui le définissent. Bien sûr, nous sommes le peuple de Dieu, mais le peuple de Dieu, c'est autre chose que la race royale. La race royale, c'est autre chose que la race élue, que le sacerdoce royal, etc. Et donc, il y a quatre choses. Afin d'annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière, qui, vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous pourrez continuer en disant vous êtes l'épouse, vous êtes voilà tout ce que nous sommes, le troupeau du Seigneur, etc. Mais il faut prendre en compte ces quatre caractéristiques de notre identité. Donc on va les prendre les uns après les autres et les classer par rapport à ce fameux tétramorphe qui est le modèle céleste et qui est repris par Pierre ici. Alors sacerdoce royal, on va commencer par ça. Sacerdoce, ça renvoie à sacrificateur. Le sacerdoce est compris, enfin, et prend en compte l'ensemble des sacrificateurs. C'est ça le sacerdoce. Quand on parle de sacerdotal, le sacerdoce, c'est tous les lévites qui, dans l'ancien temps, étaient au service de Dieu dans le temple. Et aujourd'hui, ça a été repris, en particulier par l'Église catholique, le sacerdoce, c'est les prêtres, etc., qui sont totalement consacrés à Dieu, qui ne sont pas mariés. Enfin, voilà, il y a toute la notion qui revient de l'Ancien Testament, d'être totalement consacré à Dieu. Donc sacerdoce royal, le sacrificateur, il faut se rappeler la fonction du sacrificateur.
en dehors de toutes les choses qu'il doit faire, il faut rester synthétique, c'est d'être un médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ça, la médiation. C'est-à-dire, on ne peut pas rentrer en contact avec Dieu sans un médiateur. De toute divinité, hein. Une divinité païenne, pareil, tous les hommes ont compris ça. On ne peut pas atteindre Dieu directement. Il faut un médiateur. Okay. Et les sacrificateurs sont des médiateurs. Et aujourd'hui, quel est notre médiateur ? Jésus. Sans Jésus, on ne peut pas connaître Dieu. Et aujourd'hui, il est le souverain sacrificateur. Et qui sont les autres sacrificateurs ? C'est ? Et nous ? Et nous ? Dis à ton voisin, c'est toi. Dites-le, nous sommes les sacrificateurs. Et qu'est-ce que fait un sacrificateur ? Et on aura la réponse de ce qu'on doit faire. C'est qu'est-ce qu'il fait, le sacrificateur ? Hello ? Qu'est-ce qu'il fait, le sacrificateur ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il y a dans le mot sacrificateur ? Vous allez trouver. Un sacrifice. Voilà, il ne faut pas chercher midi à 14h. Vous savez, en général, les mots sont assez simples parce qu'ils sont basés sur ce qu'on fait et qui donne le mot. Voilà. Voilà. Chaudronnier, il fait des chaudrons. Voilà. Donc, le sacrificateur, il fait des sacrifices. C'est tout. Il faisait des sacrifices en permanence. Et donc, qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on veut faire un culte à Dieu ? On fait des sacrifices. C'est pour ça qu'on vient à l'église, il faut faire des sacrifices. Donc, si vous avez du mal à vous lever le matin, vous ne vous étonnez pas, vous faites un sacrifice. Mais voilà, quand vous venez ici, vous faites un sacrifice. Et l'apôtre Paul dira dans Romains, faites un sacrifice total de vos corps. Hein, Romains, c'est ça, un culte raisonnable de vos corps. C'est pour ça qu'on invite à ce que tout notre corps participe à ce sacrifice. Et c'est un sacrifice de venir le dimanche matin à l'église. C'est vrai qu'il y en a qui veulent mettre le samedi soir pour que le dimanche matin puisse faire le jogging, d'autres qui veulent mettre le dimanche soir pour... Pourquoi pas ? Moi, je n'ai rien contre où on le met. Mais de toute façon, ça restera un sacrifice. Okay ? Donc, la convention, pour l'instant, on garde le dimanche matin, mais de toute façon, ce sera un sacrifice. Et parce que nous sommes sacrificateurs et que c'est le seul moyen d'entrer en contact avec Dieu. Donc, cette fonction du tétramorphe, elle est présente dans la fonction du sacrificateur. La deuxième fonction de cet être vivant, c'est d'être nous sommes une race élue. Alors, quand on parle de race, à quoi ça vous fait penser la race ? Vous êtes raciste. C'est quoi la race ? Pardon ? La race, c'est quoi la race ? Pardon ? C'est la peau ? Non, c'est pas la peau. La race. Pardon ? La race humaine, alors là, c'est effectivement, c'est une autre forme de race, mais c'est là qu'on revient à la définition de la race. Hein. C'est quelque chose qui nous unit ensemble. Hein. Une race aryenne, une race blanche, parce que les couleurs de la peau sont les mêmes, etc. La définition de la race, c'est quelque chose qui nous rassemble. Donc nous sommes rassemblés. Alors, rassemblés autour de quoi ? Nous sommes une race élue. Hein. Donc c'est un héritage. Et cet héritage, effectivement, on l'a d'Adam. Mais il y a un deuxième Adam qui est venu. Vous connaissez le deuxième Adam ? Eh oui. Donc il y a bien deux races aussi. Hein. Il y a notre race, et c'est ce qu'on appelle la chair et l'esprit en nous. Hein. Donc ça renvoie à cet héritage que nous avons, mais nous avons un nouvel héritage. Voilà. Et donc nous combattons avec les deux. Mais voilà, nous sommes maintenant une race élue, une race qui sommes de la race d'Adam, une nouvelle Adam de Jésus. Ensuite, nous avons la nation sainte. La nation sainte, ça renvoie à quoi comme concept de nation ? La race, ça renvoie au concept d'héritage, effectivement, d'un ensemble de caractéristiques qui nous sont communes. La nation, ça vous fait penser à quoi ? Pardon ? Oui, mais encore. L'église ? Mais encore. Pardon ? L'organisation ? C'est pas faux tout ça, mais le principal manque dans tout ça. Vous le savez d'ailleurs. Pardon ? Oui, l'identité, c'est ce qu'on cherche à définir. La langue. si en France, effectivement, on parle le chinois, le russe, le machin, etc., c'est pas une nation où on se comprend. Il peut y avoir des Chinois chez nous, mais il faut qu'ils apprennent le français. Sinon, vous voyez bien, quand il y a des gens qui viennent qui n'apprennent pas la langue, hein, c'est pas facile pour toi, une brésilienne, hein, mais tu fais beaucoup d'efforts, et les coréens aussi, etc., quand on est... C'est un des principales demandes qu'on fait. On ne demande pas de changer la couleur de la peau, on ne demande pas de changer quoi que ce soit, tout ça, mais on demande qu'on ait le même langage, qu'on parle la même langue. Hello ? Vous êtes avec moi ? Ben, c'est ça le principal dans la nation. Dans une nation, on parle une langue. La langue, ce qu'on appelle maternelle, la langue de base. Voilà. Eh bien, l'Église est une nation. L'État reflète aussi la nation, parce qu'une nation a besoin d'un gouvernement. On ne peut pas se gouverner. Les 60 millions de Français, vous imaginez, tout le monde gouverne ? Ça sera un peu la foire d'empoigne, hein, surtout en France. Hein. Chacun a sa façon de voir... les choses. Donc, bon, il faut aussi un État. Donc, l'État, là, on parle de l'État-Église, parce que nous, notre nation, justement, j'ai pas parlé de territoire, hein, j'ai pas relevé ce mot, bien que c'est vrai, parce que la notion de territoire dépend de la définition de la nation. C'est vrai pour l'Europe, l'État-nation-territoire, mais c'est pas du tout vrai dans les autres parties du monde. Donc là, je ne vais pas rentrer dans ces débats sur les nations. Mais la langue, en tout cas, c'est quelque chose qui est universel. Donc l'État, lui, il va... Alors, si on parle de nation-territoire, nous, on n'a pas de territoire. C'est où notre territoire ? Le ciel. OK ? Pourquoi ? Parce que Jésus a dit quoi ? Parce que Jésus, lui, c'est le chef de la nation. OK ? Et qu'est-ce qu'il a dit quand les anciens, enfin les chefs l'ont interrogé en disant « Mais tu es... » Voilà. Il a dit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Donc mon territoire n'est pas ici. Si mon territoire était ici, si ma nation était ici, j'aurais fait tac, les anges seraient venus, il m'a délivré, il ne serait pas passé par la croix. Jésus n'avait pas besoin de ça. Hein, il aurait pu être délivré immédiatement. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Et nous, en tant que chrétiens, dans cette nouvelle race dont nous faisons partie, notre royaume, notre territoire n'est pas de ce monde. Bien qu'il le deviendra, mais ça, c'est dans le devenir. Hein, mais pour l'instant, notre territoire est au ciel. Mais nous sommes donc cette nation sainte. Et toute nation a une législation, c'est-à-dire une alliance, hein, entre celui qui a donné cette nation et qui unit l'ensemble des gens de la nation, ça s'appelle des citoyens. Nous sommes citoyens du ciel. Ensuite, l'apôtre Pierre dira, nous sommes un peuple racheté. Alors, peuple racheté ou acquis dans l'original, hein, acquis, qui a été acquis. Hein. Donc, c'est un peuple qui a été acquis par Christ. Vous voyez, c'est Christ qui nous a racheté. C'est Christ qui nous a acheté, littéralement, par son sang. Il a dit, ce peuple m'appartient. Parce que je donne ma vie pour lui. Donc, vous voyez, nous avons un sauveur, un rédempteur, un racheteur de nos vies. Et nous sommes un peuple racheté. Et ça, ça nous parle, bon, bah, vous l'avez la réponse sur le tableau, ça nous parle de serviteur. Jésus n'a pas été identifié au moment, parce que justement, il a aussi ses quatre caractéristiques, Jésus, c'est les quatre évangiles, il n'a pas été identifié à son époque, parce qu'il est venu sous l'aspect d'un serviteur. Alors que les Juifs l'attendaient sous l'aspect d'un roi. Alors, ils ne se trompent pas. Ils se trompent simplement d'époque. Jésus viendra comme un roi. Hein, mais ils sont simplement... Alors là, je vous donne un petit truc pour que vous le sachiez. Parce qu'il y a pas mal de prophètes qui vont passer en 2015 dans notre Église. Les prophètes, en général, ils se trompent toujours sur le temps, sur la date. Toujours, pratiquement. Parce que c'est quelque chose justement que Dieu ne permet pas qu'on sache. Est-ce que quelqu'un connaît la date du retour de Jésus ? Pourquoi ? Parce que Dieu ne veut pas. Et que même Jésus ne le sait pas, vous voyez ? Et donc tout ce qui est date, ne tenez jamais compte des dates, les prophètes vous diront. Parfois, ils savent que c'est imminent. Parce que quand il y a une répétition, bon, il y a des astuces, enfin, entre guillemets, bibliques, qui nous disent pourquoi on sait que c'est rapide, parce que quand il y a une répétition, c'est rapide, etc. Bon, donc on peut savoir si ça vient rapidement ou pas. Mais on ne peut pas dire que ce sera dans 2 ans, dans 3 ans, etc. Parce qu'en plus, ça dépend, en plus, de notre disponibilité. Si nous, on met les conditions de la prophétie, sinon ça n'arrivera jamais. Voilà.
Enfin bon, ça c'est un autre débat qu'on aura, enfin notre enseignement par les prophètes. Peuple racheté. Et ce peuple racheté, il doit avoir la culture du pardon. Regardez, Jésus est venu comme un serviteur. Il a donné sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il nous a pardonné nos péchés. Le principal, comment dirais-je, dans les priorités, dans la liste des priorités du peuple racheté en tant que serviteur, c'est le pardon. Pardonner les uns aux autres. C'est très difficile de pardonner, surtout quand on a raison. Vous voyez ? Mais le problème, c'est que Dieu ne dit pas « pardonnez si vous avez raison », il dit « pardonnez tout court ». C'est ce que Pierre et les apôtres ont lui dit, mais « Seigneur, ce n'est pas possible, quoi. Tu nous demandes de pardonner ». Mais combien de fois on va le faire ? Et puis qu'est-ce qu'il dit Jésus ? 7 fois 77 fois. Enfin, 749 fois, ça veut dire l'infini, quoi. Vous voyez, le problème, c'est injuste. Mais est-ce que Jésus, il a été cloué justement à la croix ? Hello ? Est-ce que c'est juste qu'il a été cloué à la croix ? Non ? C'est injuste, mais il l'a fait pour nous racheter. Vous voyez, donc le pardon, ça n'a rien de juste. Il n'y a pas question de chercher de justice. J'ai le droit, il m'a fait du mal, c'est à lui de me pardonner, c'est pas à moi. C'est pas comme ça que ça marche, le pardon. Jésus, il l'a fait parce qu'il nous a aimés. Point à la ligne, c'est tout. Donc le pardon, ça ne se discute pas. Ça se donne. OK ? De toute façon, c'est vous qui serez gagnant, le pardon. Ce n'est pas la personne qui vous a offensé, c'est vous. Parce que vous avez une chaîne qui est attachée et vous allez développer de l'amertume. Mais là aussi, c'est un autre enseignement sur le pardon. Mais n'empêche que là, la culture du pardon est à la base de ce quatrième élément du tétramorphe. OK ? On passe à la suite. Les pères de l'Église. Les pères de l'Église, donc ceux qui ont établi la doctrine apostolique... Vous savez qu'en plus de la Bible, il y a un autre livre. On n'a pas le droit, les Mormons ont notre Bible. Mais nous, les pasteurs, on a accès à un autre livre que la Bible, qui est quand même biblique. Ça s'appelle quoi ? Vous ne le savez pas ? Je vous révèle quelque chose ce matin. Ça s'appelle le Didache. C'est du latin, le Didache. Le Didache est un livre qui a été écrit par les premiers chrétiens, les premières églises, si vous voulez, sur la manière dont ils fonctionnaient. Et on l'a retrouvé, ce Didache. Donc, c'est une mise en forme, un petit peu, de la Bible dans les premiers. Alors, ça n'a pas de valeur d'inspiration comme la Bible, on est d'accord, mais c'est une valeur de savoir comment ils ont vécu à l'époque. C'est quand même important. Tout le monde veut revenir à l'église primitive. Ben, revenons-en, c'est le Didache. Donc, le Didache, c'est un ensemble manuel assez important, écrit en latin, ceux qui lisent le latin peuvent le lire. Moi, je ne lis pas le latin, donc je vous rassure, je ne l'ai pas lu en latin. Mais je l'ai quand même feuilleté, j'ai regardé. Effectivement, ça remplace un peu ce qu'on veut faire en ce moment, les principes ecclésiastiques, ça explique la discipline, comment on fait, comment on met en musique un petit peu tout ça, les lois dans l'Église, etc. Voilà, ça existe, ça a toujours existé, et ça existera toujours. Donc, le Didache et les pères de l'Église ont écrit un certain nombre de ce qu'on appelle doctrine, ça veut dire enseigner, des enseignements de base. Et ils ont écrit sur les quatre évangiles. Et qu'est-ce qu'ils ont dit sur les quatre évangiles ? Eh bien, Matthieu. Alors, je vous dis tout de suite que la manière dont j'ai classé les évangiles en face du tétramorphe ne sont pas celles de l'Église catholique, parce qu'elle a un certain classement. C'est celle de l'église Foursquare, hein, qui effectivement est passée par le filtre d'une compréhension un petit peu plus évangélique, hein, je dirais. Si vous prenez Matthieu, c'est intéressant, Matthieu, parce que chaque évangéliste, si vous voulez, était amené par le Saint-Esprit à décrire un des éléments de ce tétramorphe, donc une personnalité de Jésus, que Jésus a manifesté en tant qu'être vivant pour Dieu. Et Matthieu le traduit très bien. Et vous le voyez tout de suite dans sa généalogie. Comment est-ce qu'il décrit Jésus dans la généalogie ? Une généalogie, c'est important. Hein ? Tout le monde cherche à savoir d'où il vient. Quelle est la généalogie ? Et qu'est-ce qu'il a de particulier qui n'existe pas dans les autres évangiles ? Celle de Matthieu. Il y en a qui... Descendant de David, mais en fait, il est descendant d'Abraham. Voyez. Au verset 2 du chapitre 1er de Matthieu, il dit « Abraham engendra Isaac ». Il commence par Abraham. Okay. Et pourquoi par Abraham? Parce que dans les autres évangiles, il ne parle pas d'Abraham. Il ne commence pas par Abraham. Vous voyez, donc il y a bien une intention. Le Saint-Esprit a utilisé Matthieu pour présenter la personne de Jésus et cette personnalité spécifique de ce tétramorphe dans le caractère de Jésus, déjà dans la généalogie. Mais rassurez-vous, il n'y a pas que la généalogie qui parle de cette partie caractéristique. Il y a tout l'évangile de Matthieu. Ce qui est très intéressant, d'ailleurs, au début, ça m'a choqué. David, oui, parce que, effectivement, fils de David, fils d'Abraham. Mais la généalogie, oui, je parle de, quand il décrit les généalogies, vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, j'allais dire une chose, c'est que j'étais choqué de lire, moi j'ai un peu lu les généalogies, je dis, c'est pas la même que dans Jean. Donc il se trompe, la Bible se trompe. Vous voyez et très, très, très rapidement, on peut déduire des choses. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui attaquent la Bible, parce qu'ils lisent ça comme ça, et disent, ça y est, il y a des erreurs historiques, donc c'est pas bon. Hop, le livre n'est pas bon. Et c'est vrai que ce n'est pas les mêmes généalogies. Wow. Qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est symbolique. C'est le problème du symbole, c'est qu'on ne comprend plus le symbole aujourd'hui. C'est symbolique. Ici, Matthieu a absolument voulu présenter la généalogie de manière symbolique. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'il y a 14 générations fois 3. Il y a 42 générations. Pourquoi 42? Si vous lisez d'autres, il y en a plus. Il y en a 62, etc. Pourquoi 42? Parce que c'est symbolique, parce qu'il a voulu passer un message symbolique. C'est ça, Matthieu. Il y a d'Abraham à David, de David à Josias et de Josias à Jésus. Chaque fois, il y a 14 générations, en tout cas, qui citent. Abraham, c'est qui? Alors réfléchissons un petit peu. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, ce symbole? Abraham, c'est qui? Père de la foi. Voilà. Donc Jésus, il est dans ce contexte du sacerdoce royal qui renvoie à la médiation vers Dieu. Pour atteindre Dieu, c'est par la foi seule. Okay. On ne peut pas atteindre Dieu en dehors de la foi. Sans la foi, eh bien, c'est pas possible. Donc Abraham était nécessaire de le citer au départ de la généalogie de Jésus dans le contexte de ce que Matthieu devait transmettre comme sacerdoce royal. Abraham à David. Pourquoi David ? Vous savez tous, hein, parce qu'effectivement, c'est le roi. Mais Dieu ne voulait pas, hein, Dieu voulait pas de roi. Hein. Il a dit à Samuel, hein, parce que Samuel, il y a eu un clash entre Samuel et Dieu, qui effectivement, Dieu a dit, écoute, laisse, je vais leur donner un roi, mais ce n'est pas mon intention. Et en fait, il a utilisé David comme un précurseur de Jésus. Vous voyez, comme quoi l'homme peut faire ce qu'il veut, et il fera toujours le plan de Dieu, parce que Dieu arrive à ses fins. Donc David est ce roi parfait. Et Josias, qu'est-ce qu'il a de particulier? Pourquoi Josias dans la troisième? Vous voyez, il y a quatre générations. Première, c'est toujours quatre. Abraham à David, David à Josias, Josias à Jésus. Et Jésus a plus soif, parce que Jésus, il est éternel. Et donc là, il n'y a plus de généalogie, c'est un infini. Mais il y en a quatre. Okay, donc restons à Josias. Quelle est la particularité du roi Josias? David, tout le monde le sait, mais Josias. Il y en a qui ont lu le récit de Josias? Pardon? Il avait le cœur de David. C'est marqué, noir sur blanc. On n'a pas le temps de prendre les textes. Il avait le même cœur de David. Un cœur droit, un cœur. C'est un réformateur. Mais c'était étonnant parce que sa vie. Tous ceux qui étudient la Bible ne comprennent pas que la vie de Josias a été très courte, alors que c'est un roi parfait. Pourquoi Dieu ne donne pas une vie longue à quelqu'un qui est super, alors qu'il y a des rois qui ont cassé les pieds à tout le monde, y compris Achab, et qui sont restés très longtemps sur le trône? Non, c'est parce que c'était prophétique. Parce que Josias annonçait déjà la souffrance de Jésus, du Messie souffrant.
Voyez, c'est pour ça que toute l'annonce de Jésus était inscrite dans l'email. Il fallait le lire d'une certaine manière pour comprendre qui était Jésus. Donc Josias était déjà précurseur, mais voilà, Jésus est dans cette généalogie du père de la foi, du roi selon le cœur de Dieu et de Josias le réformateur. Rappelez-vous ce que dit Nicolas Guillet, on donne une église de réformation. Réformateur, c'est la métanoïa de changer les choses. Et ensuite Jésus, bien sûr. Et donc Matthieu se trouve dans cette lignée de ceux qui sont les médiateurs envers Dieu, la foi et le cœur de Dieu. Mais je ne peux pas aller trop loin parce que l'heure avance. Mais c'est pour ça que dans vos groupes, vous pouvez en parler, parce que vous pouvez en parler plusieurs années là-dessus. Maintenant, ça ne marche plus. Voilà, si. Jean, l'évangile de Jean. Est-ce qu'il y a une généalogie dans Jean ? Est-ce que Jean parle d'une généalogie ? Hello ? Pardon ? Est-ce qu'il parle d'une généalogie ? Pardon ? Oui, non ? Quels sont ceux qui disent oui ? Quels sont ceux qui disent non ? Vous avez tous tort, alors. Attendez. Non, attendez, je me trompe. Vous voyez, j'ai pas mes notes, là. Non, je suis parti dans... Non. J'ai pas mes notes, hein, vous voyez. Heureusement pour moi, j'ai fait une erreur. Jean, il n'y a pas de généalogie. OK, on reviendra après. Mais il y a quelque chose de particulier dans Jean, c'est le prologue et l'épilogue. Ça veut dire quoi, ça ? Prologue, c'est avant. Et épi, c'est après. Log, c'est le logos, voilà. Donc il y a l'évangile, et il y a ce qui est avant, ce qui est après. Donc vous avez le premier chapitre et le dernier chapitre qui sont, un, le prologue, qui n'a rien à voir avec l'évangile, et la fin, qui est l'épilogue, qui n'a rien à voir avec l'évangile. En fait, l'évangile de Jean se trouve, enfin, dans le récit biblique, entre le 2 et le 20. Voilà. Et à la fin du 20, ça s'arrête. Pourquoi ? Ben, c'est pas le hasard non plus. Là, je pourrais vous faire tout un message que j'ai pas sous les yeux, parce que je l'ai chez moi, mais sur les noces de Cana. Pourquoi Jésus, enfin l'évangéliste Jean, commence au chapitre 2 par les noces de Cana ? Il dit, 3 jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. C'est le seul qui commence par les noces de Cana. Les autres évangélistes disent, voilà, Jésus est né dans la crèche, à Noël, machin, etc. Voilà, et puis, voilà. Là, il commence par les noces de Cana. Vous voyez bien qu'il y a une intention derrière tout ça. Et Jean est très symbolique, très symbolique. Et tout le prologue, c'est-à-dire le chapitre premier, qui parle de la parole, etc., c'est un remake, je ne sais pas si vous savez ce que veut dire un remake, de la Genèse. Si vous prenez Genèse 1 et Jean 1, vous trouvez la même architecture de présentation du prologue que la Genèse. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que Dieu refait une deuxième création. Allô ? Vous êtes avec moi ? C'est aussi simple que ça. La première création, il a créé qui, Dieu ? Adam ? Adam ? Et dans la deuxième création, il crée qui ? Jésus ? Deuxième Adam. Vous voyez, c'est aussi simple que ça. 3 jours après, c'est que vous voyez tous les jours qui sont égrenés. Et Jean, c'est le dernier qui a écrit son évangile. Et il a mis du temps pour l'écrire. Il a mis du temps. Chaque mot est pesé. Chaque mot. L'évangile de Jean est un ensemble de condensés, vraiment de la sagesse de Dieu. Sagesse de Dieu. Il n'y a rien qui est lié au hasard. Et là, cet évangile nous parle de la nouvelle création, de la nouvelle race, de cet héritage adamique qui est nouveau, qui est Jésus, qui est un nouvel Adam. Et quand on a Jésus dans notre cœur, on ne pêche plus. Mais pourquoi tu pêches alors ? Parce que tu as aussi l'autre dans le cœur, vous voyez ? Mais en Jésus, on ne peut pas pêcher. La Bible le dit. En Jésus, donc plus vous serez en Jésus. Alors Laurence, tu as combien de Jésus en toi ? 10, 5, 20, 30, 40, 60%, 80%. Voilà, c'est ça le problème. Voilà, les politiciens, ils aiment bien les statistiques. Faites des statistiques, je ne pense pas qu'on puisse les faire. Donc c'est un joke. Mais voilà, c'est ça la réalité. C'est que plus on a Jésus en nous, moins on peut pécher. Et moins on a Jésus en nous, plus on pêche. Puisque, voilà, c'est les deux natures. Okay, j'avance, parce que... Voilà. Alors, je ne sais plus dans quel sens il faut mettre le doigt. Paf,
Voilà, c'est un contresens. J'ai envie de faire ça, il faut faire ça. Pas compris. Luc. Est-ce qu'il y a une généalogie dans Luc ? Oui, mais elle se trouve pas au début. Elle se trouve où ? C'est là que je voulais vous coincer. C'est 3, au troisième chapitre. Voilà. C'est au troisième chapitre. C'est chapitre 3, verset 21. Il commence la généalogie. Alors, d'un seul coup, tac, il commence la généalogie. Et là, il remonte à quoi ? Jésus. Quand il parle de la généalogie de Jésus, il remonte à qui ? À Adam. Là aussi, il y a un message. Pourquoi Abraham ? Ensuite, pourquoi Adam ? Pourquoi au Logos, donc à la parole ? Voilà, il y a des messages. Et dans Marc, on va y venir tout à l'heure, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une généalogie ? Non. Est-ce qu'il y a un début de sa vie ? Non. Il n'y a rien. C'est bizarre. On commence tout de suite par ce qu'il fait. Les œuvres. Vous voyez, donc, dans chaque évangile, il y a une présentation de la personne de Jésus différente. Restons juste un instant sur Luc. La généalogie commence à Adam. Ça veut dire quoi ? Est-ce que Jésus descend d'Adam ? Non ? La caractéristique de l'évangile de Luc et de l'évangile de Jean, c'est que tous les deux, ils présentent Jésus dont l'origine n'est pas d'un homme, c'est pas de Joseph, c'est du Saint-Esprit, c'est de Dieu. Donc il est fils de Dieu. Donc d'un côté, tout l'évangile de Luc montre que c'est fils de Dieu, et en même temps, il présente la généalogie qui remonte à Adam. Vous voyez, il y a bien un paradoxe qu'il faut résoudre. Parce que comme la Bible est inspirée, c'est pas du hasard, c'est qu'il y a un message. Et ce message, c'est la nouvelle nation sainte. C'est cette nation qui a de nouvelles lois, qui viennent de la loi du royaume de Dieu que Jésus a adoptée parce qu'il est issu de Dieu et qu'il amène la loi du royaume de Dieu dans cette nation nouvelle que nous sommes. Ensuite, le peuple racheté, c'est Marc. Dans Marc, vous n'avez aucune généalogie, vous n'avez aucun prologue ou épilogue. Vous n'avez aucune présentation de Jésus, comment il est venu, naissance, etc., le baptême du Saint-Esprit, le baptême dans l'eau, etc. Rien du tout. Il commence, voilà ce que fait Jésus. Voilà les miracles qu'il fait, voilà ceci, voilà ce qu'il fait. Vous voyez ? Dans Jean, c'est ce qu'il est, et là, c'est ce qu'il fait. Et qu'est-ce qu'il fait, Jésus ? Il sert, le serviteur. C'est le serviteur fidèle. OK ? Alors vous comprendrez après ça, mais là, il faudrait beaucoup plus d'enseignements pour aller dans le détail. Je vous montre tout de suite les autres symboles qui vont symboliser tout ça, qui sont dans les évangiles. Donc, dans l'Apocalypse et dans Ézéchiel, il y a maintenant ce message qui se trouve dans les évangiles, mais qu'il faut creuser. Il y en a qui ont passé toute leur vie à creuser ça dans les évangiles. Vous avez des sommes spirituelles théologiques là-dessus. Dans ces deux trucs, il y a des symboles. Et ces symboles sont parlants à n'importe qui veut bien être honnête. Le premier symbole, c'est l'aigle. L'aigle, c'est celui qui est le roi dans le ciel, qui voit tout, qui perce tout, qui règne dans le ciel. Voilà. Donc ça, c'est le sacerdoce royal qui est représenté par l'aigle. Le lion. Le lion, c'est cette parole de Dieu, le logos de la parole, par lequel il y a la création. Quand vous parlez, quand le lion rugit, comme dans Amos, eh bien les choses se produisent. Et donc ça, ça a lieu de la puissance de la parole. Dans cette troisième face de l'homme, ça renvoie à cette nation sainte, ce nouvel Adam, Jésus, qui est venu en amenant le royaume de Dieu sur la terre au travers des lois spirituelles qui viennent du Seigneur. Et le bœuf, qui est ce serviteur fidèle qui va jusqu'au bout de ses forces, jusqu'à s'écrouler, mais il ne s'arrêtera pas à servir son maître. Dans la Bible, il y a des couleurs aussi. Les couleurs, le violet est utilisé uniquement pour la sacrificature. C'est le sacrificateur qui avait des violets. Si vous regardez le détail de ce qui est marqué, les couleurs sont très importantes dans la Bible, qui sont respectées pour la sacrificature, le sacerdoce. Ensuite, le jaune, c'est le feu. C'est le feu. Et le feu, quand Dieu se manifeste dans le feu, eh bien, vous savez qu'il est jaune, universellement, hein, que ce soit en Zimbabwe, voilà, le feu, il est jaune. Le bleu, c'est le ciel, hein, et c'est les alliances. La première alliance que Dieu a faite avec les hommes, c'est l'arc-en-ciel avec Noé, rappelez-vous. Et c'est donc le ciel, le symbole de l'alliance. Et l'autre couleur, c'est le rouge, hein, où Jésus a donné son sang comme serviteur fidèle jusqu'à donner sa vie. C'est aussi le symbole de du service, de l'esclavage jusqu'au bout. Et nous sommes esclaves de Jésus-Christ. Ensuite, Foursquare. Alors, Foursquare a eu cette révélation, donc, qui est enseignée dans ce petit livre voilà, que j'ai hérité quand j'ai fait mes études dessus. Donc voilà, ceux qui le veulent, elle parle de ces symboles Foursquare, qui était un des fondements doctrinaux de cette union d'église, ce mouvement d'église. Et dans Foursquare, il y a la couleur qu'ils ont pris, la couleur. Et là, ils ont cherché à symboliser, alors ça c'est Foursquare, hein, c'est pas la Bible, ils ont cherché à symboliser ce sacerdoce royal par la couronne. Couronne royale. Donc il y a la couronne, le roi, et le violet du sacrificateur. Ensuite, ils ont hésité pendant plusieurs années, ils ont utilisé la torche pour symboliser cette race élue, symboliser ce feu, symboliser cette parole qui brûle, hein, quand le feu, quand Dieu parle. Il vous dévore complètement, hein, ça c'était mon expérience de conversion, et ils ont pris la torche. Et en fait, pendant quelques années, ils ont préféré utiliser la colombe du Saint-Esprit. Mais les deux, voilà, sont cette couleur jaune qui est associée au Saint-Esprit qui est cette parole. Jésus a reçu le Saint-Esprit et il a commencé son ministère par l'autorité de la parole. La coupe, alors on l'associerait plutôt au sang, enfin c'est ce que moi j'associais, mais en général la coupe c'est la coupe de l'alliance, hein. C'est pas la couleur, là c'est l'alliance qui est avec le bleu, mais c'est alliance, Dieu a fait alliance avec nous. Et bien sûr la croix, qui avec le rouge va très bien aussi, qui parle directement. Alors, arrivons-en à l'application. Donc, vous voyez, il y a une cohérence entre tout ce tétramorphe et le message que Dieu veut nous donner. Comment on l'applique? Alors, on l'applique individuellement et on l'applique en groupe, parce qu'un groupe, c'est juste une juxtaposition d'individus. L'idée, c'est que le groupe soit cohérent, soit uni, pour qu'il soit un groupe et qu'il ne se divise pas en permanence. Donc, le groupe ou l'individu, on peut l'appliquer de la même manière. Cette application, c'est d'abord le sacerdoce. Notre première particularité dans notre personne qui voulons être conformes au modèle de la parole de Dieu, c'est d'être des sacrificateurs. Le sacerdoce, vous voyez, et c'est pour ça qu'en France, en particulier les évangéliques qui viennent du milieu catholique, ont beaucoup de mal à comprendre les réalités bibliques, parce qu'elles ont été déformées par le canon catholique, où on a défini des clercs et des laïcs. Les clercs, donc c'est le clergé, hein, et les laïcs. Et ça, on a connu ça pendant 18 siècles. Même à l'Assemblée nationale, il y avait des endroits, il y avait le clergé, et d'autres, il y avait le tiers-état, d'autres, il y avait les laïcs. C'était très, très structuré. Toute la société française était structurée avec le clergé d'un côté. Donc, on a le clergé, c'est quelqu'un à part. Or, c'est nous, le clergé. Vous voyez ? Le sacerdoce universel, c'est la grande réforme protestante du sacerdoce universel. OK ? C'est le sacerdoce universel. OK ? Et ça, c'est quelque chose de majeur, c'est qu'il n'y ait pas un clergé. Moi, je ne suis pas votre clergé. Je ne suis pas là pour faire l'intermédiaire entre vous et Dieu. Chacun d'entre nous, nous avons un libre accès auprès de Dieu, parce que le voile a été déchiré. Il n'y a plus de clergé. Vous voyez, ça, c'est terminé. Tous, nous sommes des clergés, si vous voulez. Tous, nous sommes des sacerdoces, des sacrificateurs qui exercent le sacerdoce. C'est le service envers Dieu. C'est le culte. Vous voyez. Donc, quand nous sommes rassemblés, nous avons cette fonction de sacrificateur et rien d'autre. Il n'y a pas d'autre chef, il n'y a pas d'autre. Voilà. Et c'est pour ça, moi, je veux être un facilitateur dans le culte pour que chacun de vous exerciez
le service auprès du Seigneur, que ce soit le service de la louange, que le service de la prophétie, le service de la vision, des révélations, etc. Enfin, tous les dons spirituels, le service de la danse, le service de... etc., etc. Quoi. Tous nous sommes utilisés pour être ce sacerdoce universel. Amen. Voilà, c'est le premier volet de ce modèle qui nous est donné. C'est un modèle corporatif. Nous sommes un corps, le corps de Christ, où il n'y a aucun chef, à part Christ. Allô ? Dis-le à ton voisin, il n'y a pas de chef, sauf Christ. Il n'y a pas de chef. Le pasteur n'est pas le chef. Eh ? Le pasteur, c'est un facilitateur dans ce cadre-là pour nous amener la présence de Dieu, pour vérifier que le culte se passe bien, qu'il y ait de l'ordre, etc. Vous voyez, c'est ça. Enfin, en tout cas, je le comprends comme ça, selon cette acception. La deuxième application pour la race élue, c'est la parole. La parole. La parole, c'est importante. Hein. Parce que si on n'est pas de la parole, on n'est rien. Hein. Donc la parole, c'est le deuxième volet absolument capital de cette personnalité. Nous devons être des hommes et des femmes de la parole. Dis-le à ton voisin. Soit un homme, une femme de la parole. Hein. Alors, je préciserai quelque chose, mais ça, c'est un autre message. C'est qu'il n'y a pas que la parole de Dieu. Il y a ma parole à moi. Ça s'appelle le réma. Hein, ma parole à moi. Le problème, c'est qu'on a perdu cette notion de parole. On peut faire des contrats, mais on ne peut pas respecter les contrats. À une époque donnée, avant qu'il y ait les écrits, la parole était beaucoup plus importante que l'écrit et on respectait la parole. Et il était un homme, une femme de parole. On donnait une parole, on donnait un accord de parole, on respectait la parole. On ne sait plus ce que c'est, ça. On ne sait plus ce que c'est. Bon, on dirait les jésuites ont passé par là, ils ont eu l'art de mélanger. Bon, voilà, mais il n'y a pas que. Hein. Nous, c'est un jésuite aussi sur les bords. On dit quelque chose, on ne respecte pas. Ça, c'est grave, mes amis. C'est grave. Parce qu'on est complètement en dehors du modèle biblique de cet être vivant. La parole, quand Dieu donne une parole, est-ce qu'il la respecte ? Bon, est-ce que nous, quand on donne une parole, est-ce qu'on la respecte ? Eh oui, ben, on devrait. On devrait, mes amis. Si on veut être conforme au modèle biblique, si on ne fait pas ce travail sur nous-mêmes, dire « Seigneur, donne-moi d'être un homme et une femme de parole. » Et pas seulement d'une parole quelconque, une parole de puissance. C'est du feu, de puissance. Parce que quand vous utilisez le nom de Jésus, c'est de la puissance. Mais c'est étonnant quand même que Jésus refuse des chrétiens qui rentrent en disant ben, « j'ai fait ça et ça en ton nom ». Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ce n'est pas uniquement le nom de Jésus qui est une puissance. C'est la façon dont vous le dites au nom de Jésus. Mais si votre cœur n'est pas avec Jésus, ça ne veut rien dire du tout, vous voyez. Alors il y a des chrétiens qui disent « ah oui, mais attention, il faut dire Jésus-Christ, alors ça marche ». Ouais. Non, mais il y a des chrétiens qui étaient dans cette église qui ont eu cette théologie-là. Parce qu'en Australie, on aura appris qu'il faut dire le nom de Jésus, Christ. Sinon, les démons s'en vont pas. C'est n'importe quoi. Mais vous voyez, il y a la loi, l'esprit de la loi. Non, la parole est le deuxième élément. Mais ça aussi, je ne peux pas m'étendre là-dessus. Mais c'est l'autorité, c'est la foi, c'est l'enseignement. Et c'est la doctrine apostolique. C'est pour ça qu'on va distinguer dans notre organisation l'équipe apostolique, qui est une équipe qui porte la parole. Hein. Apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur qui apporte la parole. Donc ça, c'est donné par Éphésiens 4, 11, 4, 10 et 11, où Jésus-Christ donne ses ministères, qui sont les ministères de la parole, parce qu'il faut être plongé dans la parole. Vous voyez. Moi, je suis très content d'être obligé de faire les messages parce que ça m'oblige à me plonger mes regards dans la parole. Vous voyez, je passe une partie de la semaine à préparer dans la parole. Et j'apprends beaucoup dans la parole. Les lois. Troisième application, c'est les lois. Alors hier, en réunion d'hommes, on parlait de ça, les lois. Effectivement, là aussi, il faudra un message là-dessus. Les lois, c'est pas juste « tu feras pas ». Ça, c'est extrêmement restrictif. Mais si je fais ça, qu'est-ce qui agit ? Qu'est-ce qui agit, là ?
et la loi. Vous voyez, donc il faut sortir de le concept de loi pour voir exactement ce que veut dire loi dans la Bible. Ça, c'est des lois que Dieu a créées. Et s'il ne les avait pas créées, ce serait le chaos. Okay ? Et sans loi, bien sûr physique, c'est le chaos, mais sans loi humaine, c'est le chaos. Okay. Et dans une église, s'il n'y a pas de loi, c'est le chaos. Voilà. Et on est chaos. Hein, voilà. C'est ce qui lui est arrivé à une époque, et on a appris que dans une église, il faut des lois. Même si elles ne sont pas parfaites, il faut des lois. Okay. Et ça renvoie à l'alliance. On est les uns dans les autres, les uns par rapport aux autres, dans un contrat d'alliance. Sinon, on ne peut pas marcher ensemble. Si nous, par exemple, on est un club de foot. Il y en a qui font du foot ici. Et si quelqu'un rentre en disant, moi je vais faire du foot avec vous, mais il a un ballon de rugby, qu'est-ce que vous allez dire? Attends, ça va pas ça. Hein, je peux pas marquer des buts avec ça, tout ça. Si, il insiste, tout ça. Qu'est-ce qui va se passer? Il va envoyer son ballon de rugby, vous, le ballon de foot, qu'est-ce qui va se passer? À un moment donné, vous allez dire, bah, stop. Vous voyez, je veux dire, on est tellement, je trouve pas le mot, mais on est, non pas désordre, mais ce que je veux dire, c'est que ça, on le comprend. Je veux dire, je vous donne cet exemple. Tout le monde va me répondre oui. Je veux dire, on est tellement compréhensible qu'on ne comprend pas que quand il y a des gens qui viennent ici, qui ont une autre vision, c'est pas leur rôle ici. Ça, on ne comprend pas. Les chrétiens, ils ne comprennent pas la théologie, ils ne comprennent pas la vision. Je dis, c'est quoi? Dans la pratique, on comprend le rugby et le foot. Enfin, ça, je le tiens à Michel parce qu'il est très pratique dans ses images. Moi, je cherche toujours des images un peu plus complexes. Et dans l'église, souvent, on dit, bah oui, mais un tel, voilà, il dit ça, alors on l'écoute, voilà. Et ben, voilà, il introduit une autre vision dans l'église. Qu'est-ce qu'il va faire? Ça va être la division. C'est bon. Mais ça, les chrétiens, ils ne sont pas assez sages. Voilà, c'est le mot sagesse que j'ai trouvé. Les hommes, Jésus l'a dit, dans le monde, il y a plus de sagesse que chez les chrétiens. Pourquoi? Parce qu'on spiritualise. Mais là, ce n'est pas de la spiritualisation, c'est des lois. Si les lois ne sont pas respectées, ça ne va pas marcher. Okay, voilà. Donc, l'application, dans l'Église, il faut des lois. Okay, l'alliance, la gouvernance, la gestion. Et c'est le rôle de l'État ecclésial de faire fonctionner ces lois. Les services. Le bœuf, ça renvoie au service. Nous sommes des serviteurs. Serviteurs. Et ça va à l'encontre de notre nature normale. Parce qu'on a été créé par Dieu pour le plaisir. Alors c'est bien, le plaisir. Mais le problème du plaisir, c'est qu'on veut toujours le garder, ce plaisir, et donc on domine sur les autres pour avoir le plaisir. Et ça commence tout petit, hein, les petits-enfants. Là, on va voir Joshua et Lucie, je ne sais pas comment ça va se passer. Chacun veut le même jouet, donc on va s'arranger pour avoir des jouets différents, tout ça. Voilà, ça commence tout petit. Je veux ça, puis on se tape dessus pour l'avoir, voilà, c'est un domine. Non, servir, c'est dire, je le lâche, je te le donne. Tu le fais facilement, ça? Hein? Heureusement, vous êtes honnête. Non, on ne le fait pas facilement. Mais Jésus, est-ce qu'il l'a fait facilement? Ben, il l'a fait pour le plaisir de Dieu, il a donné sa vie. On ne l'a pas pris, vous voyez. Il nous a donné l'exemple ultime du service. Service pour les frères dans les ministères. Et ça, c'est le rôle de l'association. Amen. Voilà. Je m'arrête là. Donc, je vous laisse ce symbolisme de la croix que vous pouvez partager dans les groupes. Il y a tout un tas de matériel. De toute façon, vous n'aurez jamais fini parce que voilà, c'est un... le symbole de la croix, de cette croix aussi bien de Jésus que de la croix en général, c'est le symbole, ce qu'on appelle le symbole des symboles. Si vous voulez connaître un plus grand symbole, il n'existe pas. Voilà. Dans tout le monde entier, l'univers, c'est universel, c'est le symbole des symboles. Donc vous pouvez creuser. Pourquoi? Parce qu'il vient de Dieu. C'est le tétramorphe. C'est celui qui nous est donné comme modèle. Et là, on peut tirer tous les modèles. Tous les modèles pour nous, comme vous l'avez vu, et pour l'Église. Et c'est ce qu'on est en train de finaliser avec Arnaud, pour votre bien et pour le bien de la pérennité de cette Église. Parce que quelque chose qui est basé sur un modèle biblique, il dure. Quelque chose qui est basé sur un modèle humain, il tombe. Okay? Donc, voilà, c'est l'enjeu, c'est soyons appuyés sur la parole, sur les modèles que Dieu nous montre pour que nous puissions demeurer dans la tempête, demeurer dans les problèmes et être ce témoin dans le monde. Le monde a besoin. Moi, j'ai fait des formations de cadre supérieur où j'ai appris des choses. Je dis, mince, l'Église, c'est pas tout ça. Et ils l'ont appris simplement par observation de la nature. Et nous, on a non seulement l'observation de la nature, on a la parole de Dieu. On ne le trouve pas. Waouh, c'est dingue, ça. C'est dingue. Moi, je suis scotché, quoi. Je dis, c'est pas possible, quoi, d'être aussi réducteur alors que le monde commence à apprendre des choses parce qu'il cherche, il cherche, il cherche, il cherche, il cherche des modèles et trouve les modèles bibliques. Et il les enseigne, et nous, on ne l'enseigne pas. Donc là, c'est un modèle biblique. Vous pouvez vous appuyer dessus, parce que c'est Dieu lui-même qui l'a montré, et qui est quelque chose qui fonctionne dans le ciel, et qui veut qu'il fonctionne sur la terre. Amen. Seigneur, aide-nous non seulement à comprendre, c'est-à-dire à prendre en soi, comprendre, mais à mettre en pratique. Seigneur, à ce que ce modèle, nous puissions vraiment chercher à le manifester dans notre comportement individuel, que dans notre comportement collectif, comportement d'Église. Et alors, Seigneur, ta gloire peut se manifester, parce que ta gloire, c'est aussi nous qui manifestons la gloire au travers de toi. Et Seigneur, c'est une collaboration entre toi et nous, et nous te remercions pour cette grâce que tu nous fais d'être collaborateur avec toi. Seigneur, nous te bénissons pour ta révélation, pour la parole, mais nous te remercions aussi pour ton esprit qui nous aide à mettre en pratique chaque jour, Seigneur, les enseignements de ta parole. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.